France Musique.
Merci d'avoir choisi France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. À l'Assemblée nationale, Aurore Berger a fait adopter plusieurs amendements pour mieux soutenir, dit-elle, le monde de la culture et notamment les solistes classiques. Mais tous les acteurs de la vie musicale sont-ils désormais protégés par la crise? La députée et porte-parole de La République En Marche est notre invitée à 8h50. On ira tous au paradis, même lui. Jean-Loup Dabadi, l'un des grands auteurs de la chanson française, s'en est allé. Hommage aux paroliers, aux dialoguistes et à l'écrivain jusqu'à 9h et notamment à 8h40 dans Classique Info avec Sophie Anastasio. Applaudis chaque soir pendant des semaines, les professionnels de santé vont répondre à leurs attentes via des états généraux. Il débute aujourd'hui, Olivier Denry revient dans son journal. Le retour de l'info dans Musique Matin, c'est à 8h30. Et puis elle a pris une année sabbatique cette saison. La violoniste Hilary Hahn fait l'objet d'un documentaire tourné pendant 16 ans. Suzanne Gervais l'a vu pour nous, sa chronique c'est désormais à 8h25.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Très bon réveil en musique, montez le son à chouïa. Voici Delib, Coppelia.
Thank you.
Il a 34 ans, Léo Delibes, quand il compose la musique pour son deuxième ballet, Coppelia, d'après un conte d'Hoffmann. Coppelia a été créé le 25 mai 1870 à l'Opéra de Paris. Elle est en compte il y a 150 ans aujourd'hui. Mais oui, un ballet dont le triomphe ne s'est jamais altéré, grâce notamment à cette partition du compositeur sartois qui sublime la danse au lieu de simplement accompagner joliment ce qui se passe sur scène. C'était ici la mazurka dans l'une des plus belles interprétations, je trouve, au disque de ce ballet Coppelia de Léo Delibes, celle de l'orchestre de la Suisse romande dirigée par Ernest Ansermé. France Musique, il est 8h05.
C'est une maison qu'on avait oubliée. Carla dit qu'elle se rappelait la couleur des volets. Moi, je suis sûre que ce n'est pas la même. Mais tu sais comment sont les choses qu'on aime. On a beau les repeindre. Le vent s'est levé lundi et je suis contente. Et je t'écris ma cinquième lettre et je m'attends à ton cinquième silence. J'entends toute la famille qui vit et qui rit en bas. Et si je t'écris que je suis triste, c'est malhonnête et je le sais. Je ne te reverrai pas et je le sais aussi. Et pourtant je voudrais qu'on me dise où tu es. Où tu es? Tu vis et tu ne réponds pas. Évidemment, Marité a failli se tuer en sautant d'un rocher. Simon est amoureux. J'ai acheté deux robes. Une petite bleue et une petite blanche au marché du matin. Maman a passé son permis de conduire. On se demande pourquoi tout d'un coup. Antoine est venu nous voir. Pour les robes, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien acheté. Mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Ce n'est pas ton indifférence qui me tourmente, c'est le nom que je lui donne. La rancune, l'oubli. David, César sera toujours César, et toi tu seras toujours David, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre, et qui m'aime sans me vouloir.
La musique de Philippe Sard, la voix, vous l'avez sans doute reconnue, de Romy Schneider, et les mots de Jean-Loup Dabadie, César et Rosalie. Claude Sautet en 1972, Jean-Loup Dabadie qui est donc mort hier, il avait 81 ans, Dabadie scénariste, dialoguiste. Peut-être avez-vous revu hier soir Les choses de la vie de Sautet également. Et Dabadie, bien sûr, l'un des grands auteurs de la chanson française pour Julien Clerc, ma préférence, femme, je vous aime, Michel Polnareff également, on ira tous au paradis, Lettre à France, mais aussi Jean Gabin, Juliette Gréco, on l'écoutera tout à l'heure. Hommage sur France Musique avec notamment samedi prochain à 11h chez Benoît Dutertre. Benoît avait reçu Jean-Loup Dabadie en 2011. Il y raconte plein de choses et il lui avait notamment posé la question suivante. Quand il écrit pour un autre, parle-t-il de lui-même ou se met-il à la place de celui pour qui il écrit? Voici la réponse de Jean-Loup Dabadie.
En fait, c'est comme pour le cinéma ou pour le théâtre, enfin surtout pour le cinéma. Si vous connaissez vos acteurs à l'avance, c'est vrai qu'on essaie de se mettre, sinon dans la vie, du moins dans l'âme, dans le corps du chanteur. Il y a certaines, même du point de vue des sons, il y a certains mots, certaines syllabes qui vont à certains, qui ne vont pas à d'autres. J'ai écrit peu, mais certaines chansons pour Michel Sardou, comme chanteur de jazz, par exemple. J'aurais pas pu lui écrire ma préférence. Ce ne sont pas des nuances pour Michel. Alors, toutes en ce qui concerne le côté autobiographique, je répondrais que j'ai, à certains moments, quelquefois je les ai repérées, et puis très souvent pas, des émotions qui ne me font de l'effet que après, quelquefois longtemps après, et pas les mêmes émotions. Par exemple, je peux écrire une chanson d'amour et à certains moments me sentir dans un véritable état d'émotion. Et puis, il m'est arrivé de découvrir que c'est parce que, sans le vouloir, subconsciemment, j'ai repensé à un épisode de la vie de mes enfants, ou de mes parents, ou de mes amis. C'est exactement, je pense, comme lorsque les gens qui sont très forts en gastronomie retrouvent un goût dont ils disent, je ne sais pas d'où ça me vient, mais c'est un goût, alors c'est classiquement le goût de l'enfance, etc., mais, ou d'un pays étranger, c'est ça. Je pense ne jamais avoir été carrément autobiographique. Mais néanmoins, si vous parlez de l'amour d'une certaine façon, si vous parlez des paysages d'une certaine façon, si vous parlez des visages ou des voix, c'est bien parce que ils ou elles ont habité ou habitent votre vie.
Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. comme tu lui ressembles. On reste tous les deux, on va bien jouer ensemble. On est là tous les deux, seuls. Ce soir elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Elle écrira demain peut-être, nous aurons une lettre. Il pleut sur le jardin, je vais faire du feu. Je n'ai pas de chagrin, on est là tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois, il pleut dans ma mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires, mais il fait un peu froid ce soir. Une histoire de gens qui s'aiment, une histoire de gens qui s'aiment. Tu vas voir, ne t'en va pas, ne me laisse pas. Je ne sais plus faire du feu, mon enfant, mon amour. Je ne peux plus grand-chose, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on est là tous les deux, perdus parmi les choses, dans cette grande chambre, seul. On va jouer à la guerre et tu t'endormiras. Ce soir elle ne sera pas là, je ne sais plus, je ne sais pas. Je n'aime pas l'hiver, il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien à faire qu'à jouer tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires, il était une fois. Je n'ai plus de mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires, mais il est un peu tard ce soir. L'histoire de gens qui s'aimèrent et qui jouèrent à la guerre. Écoute-moi, elle n'est plus là. Non, ne pleure pas.
Pas la chanson la plus joyeuse du monde, mais c'est la première que Dabadi a écrite en 1967, Le Petit Garçon. Musique de Jacques Datin et paroles donc de Jean-Loup Dabadi, chantée par Sergiani, bien sûr. Hommage à Dabadi, l'homme qui avait ses formules, Nous sommes septembre, par exemple, sur France Musique. Samedi à 11h, ce sera avec Benoît Dutertre et Tonnez-moi Benoît. On y revient aussi dans une demi-heure avec Sophie Anastasio dans Classique Info. On écoutera une autre chanson de Dabadi, plus souriante, plus joyeuse celle-ci. Il est en 1975 né à Colombes, à côté de Paris, mais c'est grâce à l'Angleterre et notamment à nos confrères de la BBC que Cédric Tiberghien a pris son envol. Le pianiste le racontait d'ailleurs il y a quelques semaines dans les grands entretiens de France Musique. À Londres, j'ai eu le sentiment de rencontrer mon public, c'est ce qu'il disait au micro de Judith Chen. C'est d'ailleurs disponible, ces grands entretiens, à la réécoute et en podcast sur notre site. Eh bien, que diriez-vous de passer une soirée à Londres, avec Cédric Tiberghien, c'est ce que vous propose France Musique, et Clément Rochefort ce soir à 20h. Deux concerts en une soirée, récital et musique de chambre, et un spectre de répertoire très large, de Beethoven à John Cage, en passant par Jean-Sébastien Bach, que Tiberghien joue en prenant soin de bien faire entendre à égalité toutes les voix. Thank you. Jean-Sébastien Bach, la gigue de la troisième partita pour clavier, c'était Cédric Thiberguer au piano. Le musicien est à l'honneur du concert de 20h ce soir avec Clément Rochefort, deux concerts enregistrés à Londres au Wigmore Hall. Sous la couverture, c'est le rendez-vous des livres qui parlent de musique, en tout cas ce sont les auteurs qui parlent de musique, auteurs de ces livres. C'est tous les samedis à 7h avec Philippe Venturini. Est-ce sous la couverture que Philippe nous parle? Je ne sais pas, en tout cas c'est lui, la voix de France Musique ce matin, qui a choisi pour vous, pour nous tous, une musique de joie, d'extase même peut-être.
France Musique, vous allez l'adorer.
Bonjour, je vous propose d'écouter ce matin une œuvre qui n'est pas vraiment dans l'air du temps, qui n'est pas tout à fait compatible avec les gestes barrières et la distanciation. Pas par esprit de contradiction, mais plutôt pour profiter de la musique, pour s'évader de la prison du quotidien. Cette œuvre, c'est le poème de l'extase d'Alexandre Scriabine. Cette étourdissante alchimie de sons, de couleurs, de parfums et de sensations. Le poème de l'extase, c'est un peu le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, saturé d'hormones et parcouru par un faune priapique. C'est un peu comme si Mallarmé avait cédé la plume à Pierre Louis. Pour porter haut le message ésotérique, mais également très sensuel, de cette partition qui fourmille indications comme « avec délice », avec une volupté de plus en plus extatique, Scriabine convoque un orchestre très sonore avec des bois par quatre, huit corps, cinq trompettes, des percussions. Je vous propose d'écouter la fin du poème de l'extase, avec, comme il se doit, un crescendo irrésistible dans une des versions de celui qui en fut le champion en toute catégorie, Evgeny Svetlanov. Ceux qui ont eu la chance d'entendre cette œuvre en concert avec Svetlanov et son orchestre savent de quoi je parle. C'était une expérience physique inoubliable. Et sous le déluge des décibels, on avait l'impression que la salle allait s'écrouler.
Alexandre Scriabine et cette fin orgasmique, hein, si j'ai bien compris, Philippe Venturini, du poème de l'extase créé en 1908. C'était l'Orchestre symphonique d'État de Russie dirigé par Yevgeny Svetlanov. Le choix ce matin donc de Philippe Venturini sous la couverture, un auteur chaque semaine sur France Musique. Le samedi en ce moment c'est à 7h30 et quand vous voulez, bien sûr, sur francemusique.fr. Il est 8h25, voici Suzanne Gervais. Bonjour, bonjour Suzanne.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Et on commence la semaine avec la violoniste Hilary Hahn.
Oui, puisqu'un documentaire inédit sur la musicienne américaine va sortir d'ici quelques semaines. Voilà une belle manière pour la violoniste de clôturer l'année sabbatique qu'elle s'est offerte. Son titre, c'est « Evolution of an Artist », « Évolution d'une artiste ». Et sa particularité, son intérêt principal même, c'est qu'il a été tourné sur 16 ans, de 2003 à 2019, par le réalisateur munichois Bénédicte Miro. On voit donc défiler 16 années déterminantes de la carrière d'Hilary Hahn, qui s'est fait connaître avec un premier disque consacré aux sonates et partitas de Bach. Souvenez-vous, c'était en 1997, un disque qui a eu un succès fou et que, comme moi, vous avez peut-être écouté des dizaines et des dizaines de fois. Depuis, Hilary Hahn, qui a aujourd'hui 40 ans, a enregistré 16 autres albums. Elle innove toujours sur Instagram, où elle a créé le challenge 100 Days of Practice, 100 jours de pratique, un preuve de son engagement dans la transmission de la musique. Pour vous donner envie, je peux vous dire que vous allez trouver dans ce documentaire de longue haleine ce qui fait, selon moi, tout l'intérêt de ce type de film sur les grands artistes. Je pense notamment à ceux de Bruno Mont-Saint-Jean sur Glenn Gould, sur Menuhin, sur Paul Badoura Skoda aussi. Leur intérêt, c'est précisément de nous ouvrir une porte sur le quotidien et l'intimité de ces musiciens hors normes. Il n'est pas question de voyeurisme, mais bien d'observer, de comprendre comment les artistes géniaux vivent leur art, quasiment au quotidien, comment une carrière se construit, les moments d'inspiration géniale, mais aussi les moments âpres et difficiles d'une vie d'artiste, fascinant tout autant qu'inspirant. Le documentaire est prêt, il devait être diffusé en avant-première à Munich pendant le Docfest Festival au mois de mai, du 6 au 24, ça devait se terminer hier. Faute de vrais concerts, les organisateurs ont tout de même organisé des rendez-vous musicaux en ligne. Pour les chanceux qui avaient acheté leur place, il est possible de voir le documentaire sur le site du festival. Pour les autres, il faudra se contenter pour l'instant de la bande-annonce qui fait très envie, je vous le dis. Et notez dans nos agendas la sortie du film sur Arte en septembre. France Musique vous tiendra bien sûr informé.
Comme toujours, Suzanne Gervais, Musique Connectée, c'est le titre de votre chronique à retrouver sur francemusique.fr. À demain Suzanne.
À demain.
Le titre de ce documentaire, c'est donc Evolution of an Artist, ça sort cet automne. Documentaire consacré à l'américaine Hilary Hahn. Elle joue ici l'américain, son compatriote, Leonard Bernstein. Eric Zimakous, un extrait de la sérénade pour violon, orchestre à cordes, harpe et percussion de Leonard Bernstein. C'était Hilary Hahn au violon, l'orchestre symphonique de Baltimore dirigé par David Zinman.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Il y a quelques jours, elle a fait adopter à l'Assemblée nationale un amendement pour mieux soutenir les artistes et notamment les solistes classiques. La députée La République En Marche, Aurore Berger, sera notre invitée à 9h10. Veni, Vidi, Vinci, comme le compositeur italien Leonardo Vinci, c'est le titre du nouveau disque du contre-ténor argentin Franco Fagioli. découverte extrait à 9h moins le quart. Et puis, dans 10 minutes, la vie musicale semble reprendre petit à petit en Italie de l'espoir, dont plusieurs exemples avec Sophie Anastasio. Ce sera dans Classique Info. Mais pour l'heure, France Musique, il est 8h30. Et c'est l'heure du journal, le retour du journal, avec Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Alors que le nombre de patients en soins intensifs continue de diminuer en France, le gouvernement donne rendez-vous cet après-midi aux professionnels de santé pour des états généraux organisés rue de Ségur à Paris. Le coup d'envoi de 2 mois de concertation pour revoir de fond en comble l'organisation et le fonctionnement de l'hôpital public avec une priorité, Solène Lehen, la revalorisation des salaires des personnels soignants. Une revendication à l'origine, on s'en souvient, de plusieurs mois de grève dans les services d'urgence avant l'apparition de la pandémie de coronavirus.
Un point fait déjà consensus, c'est la nécessaire hausse des salaires des infirmiers, métier difficile, mal payé par rapport à la moyenne européenne et au cœur d'une crise des vocations. Les syndicats et collectifs souhaiteraient que le ministre de la Santé annonce rapidement 300 euros de plus par mois pour les infirmiers, mais aussi des hausses de salaire pour d'autres métiers en tension à l'hôpital, manipulateurs radio, secrétaires médicaux ou informaticiens. Ce sera l'un des enjeux principaux des discussions. Olivier Véran est prêt à aborder cette question des salaires, mais aussi celle de la réorganisation de l'hôpital, de son financement et de sa gouvernance. Le ministre dit vouloir aller vite. C'est justement ce que demandent l'intersyndicale et les collectifs interurgences et interhôpitaux. Tous disent espérer entrer dès aujourd'hui dans le vif du sujet, même s'il sera surtout question déjà de se mettre d'accord sur un calendrier des discussions et une méthode, notamment avec Nicole Notta, ancienne secrétaire générale de la CFDT et soutien d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle. C'est elle qui mènera les discussions de ce Ségur de la santé.
Et ces discussions pourront s'appuyer sur un manifeste publié ce matin par le journal Libération. Dans cette tribune, les professionnels de santé réclament notamment un accès universel et automatique à des soins de qualité ou encore la primauté des intérêts de santé publique sur les intérêts économiques. Le monde industriel, justement, le chef de l'État doit annoncer demain un plan de soutien au secteur automobile alors que le groupe Renault, notamment, n'est vraiment pas au milieu de sa forme. L'exécutif en dira plus également cette semaine sur la réouverture des bars et des restaurants. Les acteurs du tourisme seront aussi très attentifs aux déclarations du gouvernement dans la perspective des vacances d'été. Hier, Elisabeth Borne, la ministre des Transports et de la Transition écologique, a répété que les Français pouvaient commencer à réserver leur séjour en les invitant à rester en France le plus possible. C'est déjà l'heure des conseils de classe, alors qu'on ne sait toujours pas si les lycéens vont retourner dans leurs établissements d'ici la fin du mois de juin. Cela concerne notamment les élèves de seconde. Les chefs d'établissement évoquent la question des orientations et des choix de spécialité pour justifier ce calendrier qui contredit les recommandations de leur ministère. Un ministère qui doit par ailleurs trancher dans les jours qui viennent sur le maintien ou non de l'oral de français pour le baccalauréat. L'Allemagne et la Chine n'ont plus une minute à perdre, considérant évidemment que le temps c'est de l'argent. Les deux pays qui ont tissé d'importants liens économiques veulent ainsi relancer au plus vite la machine et les usines qui vont avec, d'où ce vol très particulier pour Shanghai, affrété ce soir par la compagnie Lufthansa. À Berlin, c'est une correspondance de David Philippot.
Pour monter à bord de l'Airbus A343, Volkswagen, BASF et compagnie ont dû s'acquitter d'un prix du billet d'au moins 2500 euros, tarif minimum en classe économique. Corona oblige, il a fallu disposer les passagers en quinconce, ils ne seront que 200 environ à prendre place à bord, à condition de fournir à l'embarquement un test corona négatif daté des dernières 48 heures. Une fois arrivés sur place, les passagers du vol LH734, chef de filiale, ingénieur ou scientifique, seront retenus 48 heures dans un hôtel de Shanghai, le temps de passer à nouveau un test corona plus un test sanguin. C'est la chambre de commerce germano-chinoise qui organise ce voyage si important pour les deux pays. La Chine a doublé la France depuis 5 ans au rang de premier partenaire commercial de l'Allemagne et ce sont les autorités de Pékin qui ont contacté le gouvernement Merkel au début du mois afin de rapatrier des personnels urgemment requis. Elles sont également en pourparlers avec la France pour l'organisation d'autres vols commerciaux de ce type.
La Chine, qui veut aussi imposer de nouvelles règles de sécurité à Hong Kong, a vu hier des milliers de personnes protester contre ce projet. Les manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. 180 personnes ont été arrêtées. Le chef de la police locale a qualifié ce matin de terrorisme les actions des opposants qui défendent au contraire la liberté et l'indépendance de leur ville. Les voyageurs qui viennent du Brésil ne sont plus les bienvenus aux États-Unis. Donald Trump leur interdit tout simplement d'entrer sur le sol américain pour des raisons sanitaires. Le commerce n'est pas concerné par cette décision, précise la Maison-Blanche. Outre-Atlantique, le coronavirus a fait près de 100 000 morts. Le New York Times leur a rendu hommage hier en publiant à la une les noms d'un millier de victimes. Un mot encore pour vous dire que plus de 64 000 personnes ont signé ce matin en France une pétition qui demande au ministère de l'Écologie de ne pas accélérer la reprise de la chasse avec une date d'ouverture en ligne de mire le 1er juin. Pour en savoir plus, je vous envoie à la lecture d'un article sur le site de Reporter, le quotidien de l'écologie. Du soleil quasiment partout, les nuages s'accrochent sur les reliefs des Pyrénées avec des averses et des orages en perspective en fin de journée. Les températures sont en hausse de 4 à 18 degrés ce matin et de 18 à 29 degrés cet après-midi. Jean-Baptiste Urbain.
C'était le journal d'Olivier Denré. À demain, Olivier. 8h30, donc nouvel horaire. Et je précise que vous présentez vos journaux pour l'instant de chez vous, d'où ce son un petit peu particulier. On va régler tout ça, bien sûr, dans les prochains jours. À demain, Olivier. Quand la vie reprend peu à peu en Europe, en Grèce, ce sont les tavernes qui rouvrent dans le pays. En Italie, les salles de sport et les piscines accueillent à nouveau du public à partir d'aujourd'hui à la piscine. En France, le flou demeure, rappelait hier le journal du dimanche dans un article consacré au grand blues des nageurs. Certains en rêvent la nuit, d'autres peut-être se consolent avec Handel, la Water Music. Thank you. Handel, Alarm Pipe, extrait de la deuxième suite, la seconde suite de la Water Music, c'était The English Concert, dirigé par Trevor Pinnock chef, mais aussi claveciniste. Il vient de sortir d'ailleurs le premier disque du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, on l'écoutera sans doute un de ces prochains jours, ou bien chez nos camarades dans Piste. France Musique, il est 8h40, c'est l'heure de Sophia Anastasio. Et son classique info, bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste.
On commence avec la disparition de Jean-Loup Dabadie.
Le scénariste, dialoguiste, écrivain, académicien est décédé hier à l'âge de 81 ans, quelques jours après Piccoli. Dans cette France convalescente mais ensoleillée, sa mort a quelque chose de la définition même de la mélancolie, note Christophe Comte dans Libération. Après un premier roman publié à 19 ans et des débuts dans le journalisme, Jean-Loup Dabadie écrit des sketchs à succès avant de devenir parolier. Lettre à France, On ira tous au paradis pour Polnareff, Ma préférence pour Julien Clerc ou encore L'Italien pour Serge Reggiani. Scénariste, il devient le narrateur officiel des années 70, peut-on lire dans Télérama. Il coécrit Max et les Ferrailleurs, César et Rosalie, Vincent, François, Paul et les autres. Dire du Dabadie, ce n'était pas rien. Vous qui pénétrez dans mon cœur, ne faites pas attention au désordre.
Autre disparition, Mori Kanté nous a également quitté vendredi dernier.
Le chanteur et musicien guinéen est mort des suites d'une longue maladie vendredi dernier à Conakry. Surnommé le griot électrique, on lui doit le tube Yeke Yeke, vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Au Mali, il avait intégré le rail band de Bamako de Salif Keïta. Il a également dirigé un grand orchestre d'instruments traditionnels à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Dans une tribune publiée hier dans le journal du dimanche, artistes et acteurs du monde culturel lancent un appel pour soutenir la scène musicale française.
Jean-Noël Tron, directeur général de la SACEM, Sybille Veil, présidente de Radio France ou encore Vladimir Kosma et Marc-Olivier Dupin, 142 personnalités en tout, se sont associés pour lancer l'opération Scène française. Diffuser plus d'œuvres francophones et françaises sur les antennes et dans les programmations, c'est assurer un avenir aux artistes de notre pays et des revenus en droit d'auteur, indique-t-il dans ce texte.
Direction l'Italie maintenant, Sophia, où la vie musicale reprend doucement.
C'est Riccardo Muti qui dirigera le tout premier concert depuis la fermeture des salles en Italie. Ce sera pour l'ouverture du festival de Ravenne le 21 juin prochain. L'événement se tiendra en plein air dans la forteresse de la Rocca à Brancaleone devant 300 spectateurs masqués, indique la Repubblica. Le chef sera à la tête de son orchestre Luigi Cherubini avec la soprano Rosa Feola.
Et puis plusieurs festivals ont également annoncé leur tenue cet été.
Oui, toujours en Italie, le festival Rossini de Torre del Lago en Toscane se tiendra du 26 juin au 14 août avec notamment Antonio Papano à la tête de l'orchestre de l'Académie nationale de Sainte-Cécile. Le festival de la Vallée d'Etria célébrera lui sa 46e édition du 19 juillet au 2 août. Enfin, dans un débat en ligne, le surintendant de la Scala, Dominique Meyer, a réaffirmé une réouverture possible du théâtre dès les premiers jours de septembre.
Classique info, Sophie Anastasio a retrouvé aussi sur francemusique.fr dans la rubrique Actualité musicale. À demain, Sophia.
À demain.
Depuis hier, vous avez peut-être entendu certaines des chansons les plus connues écrites par Jean-Loup Dabadie, On ira tous au paradis, Ma préférence, en 1974, sur une musique de Gérard Joannest pour Juliette Gréco. Il écrivait cette chanson.
C'est d'où viens-tu? Les, que fais-tu? Les, où vas-tu ainsi vêtu? Les, t'as vu l'heure? Les, dis-moi tout. Ces quatre fleurs, elles viennent d'où? Les, j'ai battu la mèche oblique. L'inquisition, l'accusation, je n'en peux plus, le cœur abdique. Baisse un peu ta jalousie, elle me fait de l'ombre. Imagine-toi, je n'y vois plus dans notre vie, il fait bien sombre. Imagine-moi, que reste-t-il de notre humour? Et est-ce ainsi que meurt l'amour? Les qui, les qui t'a eu? Les qui t'a cru, les qui t'écrit, les on t'a vu, les on m'a dit, les sons de cloche, les mouches du coche, tous ces espions
et tous ces pions de ma vertu en ton absence. J'ai quand j'y pense le cœur fourbu. Baisse un peu ta jalousie, elle me fait de l'ombre. Imagine-toi, je n'y vois plus dans notre vie. Il fait bien sombre. Imagine-moi, que reste-t-il de notre humour? Et est-ce ainsi que meurt l'amour? Baisse un peu ta jalousie, mère.
Juliette Gréco, Ta jalousie, musique de Gérard Joannest. Paroles de Jean-Loup Dabadie, hommage sur France Musique et notamment samedi dans Étonnez-moi Benoît avec Benoît Dutertre à 11h. Veni, vidi, Vinci. Oui, Vinci en référence au compositeur Leonardo Vinci, compositeur italien du XVIIIe siècle. Veni, vidi, Vinci, donc c'est le titre du nouveau disque de Franco Fagioli. Le contre-ténor argentin a pioché parmi la trentaine d'opéras du musicien italien, musique d'une grande virtuosité, pyrotechnique et qui en même temps requiert une légèreté aérienne. Toute cette qualité, Franco Fagioli les a, la preuve. Leonardo Vinci, Scherzo dell'onda instabile, et il semble que je puisse encore entendre les eaux capricieuses. Un extrait de Medo de Leonardo Vinci, un opéra créé à Parme en 1728. C'était Franco Fagioli, Il Pomodoro, dirigé par Zefira Valova, extrait du disque Veni, Vidi, Vinci, paru chez Deutsche Grammophon. France Musique, 8h49, l'heure de notre invité.
Musique Matin. Jean-Baptiste Urbain, France Musique.
Et une fois n'est pas coutume sur France Musique, notre invitée ce matin, c'est une députée porte-parole de La République En Marche. Bonjour Aurore Berger.
Bonjour.
Si vous êtes avec nous ce matin, c'est qu'il y a quelques jours, le 14 mai précisément, vous avez fait adopter 3 amendements relatifs au monde de la culture face à la crise sanitaire. L'un d'entre eux notamment pour adapter l'activité partiel, le chômage partiel, aux spécificités du monde de la culture, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on a des mesures qui sont des mesures transversales d'accompagnement de l'emploi, d'accompagnement des entreprises, mais la multiplicité, l'hétérogénéité des statuts, des régimes, tant des lieux culturels que des artistes ou des techniciens, parfois complexifient les choses. Et c'est notamment le cas pour les solistes, parce qu'ils ont des employeurs multiples et que la logique de plafonnement, si vous voulez, à 4,5 SMIC de l'activité partielle, qui peut tout à fait se comprendre quand vous êtes dans un emploi, j'allais dire, classique, à temps plein, eh bien là, ne fonctionne pas pour eux, parce que du fait de ce plafonnement, quand l'activité partielle est déclenchée, eh bien, ils ont un soutien qui est extrêmement faible, alors que malheureusement, comme tous les artistes aujourd'hui, ils ne peuvent pas se produire et donc ils ont besoin de cet accompagnement.
Employeurs multiples et notamment, ils n'ont pas forcément le statut d'intermittent parce qu'ils jouent beaucoup à l'étranger et que dans ces cas-là, ils ne bénéficient pas de l'intermittence telle qu'elle est possible en France.
Exactement, ils sont très rarement, si ce n'est jamais, ils ne relèvent pas du régime de l'intermittence, comme beaucoup d'artistes ou de techniciens du spectacle, et notamment du spectacle vivant ou de l'audiovisuel. Et donc, encore une fois, la crise, si vous voulez, elle ne fait que révéler des difficultés, des fragilités, des différences de statut et de régime qui préexistaient à la crise, sauf que dans un tel moment où de fait vous n'avez pas la possibilité d'aller vous produire à l'international, comme d'ailleurs les artistes internationaux ne peuvent pas venir actuellement dans notre pays, quand vous n'avez pas la possibilité aussi d'avoir une visibilité sur les quelques semaines ou quelques mois qui arrivent, puisqu'aujourd'hui il y a surtout beaucoup d'annulations, alors des reports, mais en vérité, on va pas forcément jouer deux fois plus. Oui. Donc c'est plutôt des annulations qui, de fait, sont mises en œuvre. On a besoin, encore une fois, d'adapter les dispositifs. Pour reprendre une expression qui m'avait été dite par un acteur culturel, parfois, on doit faire rentrer au chausse-pied les acteurs culturels dans les dispositifs existants. Mais je crois que la crise, elle doit être aussi une opportunité, probablement, pour repenser un certain nombre de ces dispositifs.
Aurore Berger, ces amendements, et notamment celui-ci, ont été adoptés il y a 10 jours. Très concrètement, les musiciens, ils nous écoutent ce matin. Quand ces dispositions seront-elles effectives et qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement pour bénéficier de cela?
Alors, c'est un parcours législatif qui va suivre son cours, qui signifie qu'une fois que la loi a été adoptée à l'Assemblée nationale, elle doit l'être au Sénat. On espère que le Sénat l'adoptera dans les mêmes termes pour aller plus vite, mais ça, je peux pas répondre à la place des sénateurs. Et ensuite, le gouvernement doit mettre en œuvre les dispositifs tels qu'ils ont été décidés à l'Assemblée nationale. Donc j'espère vraiment que dans les toutes prochaines semaines, ces dispositifs pourront rentrer en œuvre, de manière, encore une fois, à ce que l'activité partielle qui a été mise en place pour soutenir l'emploi, quels que soient les types d'emploi, quels que soient les types de statuts, eh bien, puisse vraiment bénéficier, notamment aux solistes et à tous ceux d'ailleurs qui relèvent d'un régime où ils ont des employeurs multiples, par exemple beaucoup le cas dans l'événementiel, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ça n'est pas le cas.
Dans le monde musical, il y a les musiciens, il y a plein d'autres métiers aussi, des éditeurs phonographiques, des attachés de presse, des agents indépendants, les professeurs particuliers aussi. La plupart sont tout entrepreneurs. Alors, ils ont droit aux 1 500 € mensuels. Parfois, ils ont plusieurs milliers d'euros de loyer. Dur ça, vous allez me dire plein d'autres métiers aussi. Mais qu'est-ce que vous avez à leur dire sur France Musique ce matin, Aurore Berger?
Encore une fois, il y a à la fois des dispositifs qui existent pour l'ensemble des salariés, quels que soient les régimes dans ce pays, notamment la question de l'activité partielle. Je crois qu'il y a un premier sujet, c'est qu'il faut que l'État soit exemplaire vis-à-vis des contrats qui avaient été envisagés. C'est par exemple le cas sur le monde associatif. L'État a dit que pour toutes les subventions qui auraient dû être octroyées aux associations par rapport à des événements qui auraient été organisés, combien même ces événements ne peuvent exister, eh bien, ces subventions existeront. Je pense qu'il faut que les collectivités locales aussi soient exemplaires en la matière. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui interviennent en milieu scolaire. De fait, ces interventions, pour l'instant, elles avaient été interrompues avec la fermeture des établissements scolaires. Là encore, à partir du moment où c'était prévu et où c'était l'État qui s'était engagé vis-à-vis des artistes, je crois qu'il y a une logique d'exemplarité qui doit permettre de les rémunérer malgré tout pour pas accentuer la fragilité. Ça, je pense que c'est vraiment le premier point. Et puis l'activité partielle, on le sait bien, c'est l'entreprise qui décide ou non de la mettre en œuvre. Les entreprises, notamment dans le spectacle vivant, qui reposaient exclusivement sur la billetterie, pour certaines d'entre elles n'ont plus aucune ressource et donc elles n'ont pas forcément la possibilité, encore une fois, de mettre en œuvre l'activité partielle. Par contre, on a beaucoup d'autres entreprises, qu'elles soient privées ou des opérateurs publics, qui, eux, peuvent l'activer. Et je crois que, là encore, on a cette logique de solidarité qui doit exister. L'État prend massivement en charge l'activité partielle. C'est quand même 84% qui était pris en charge, qui existe dans aucun autre pays au monde. Donc, il faut que cette exemplarité puisse se mettre en œuvre.
D'un mot, Aurore Berger, on voit rouvrir progressivement des salles en Italie, en Autriche, en Allemagne. Est-ce que le gouvernement a bien fait d'annoncer un arrêt quasi total du spectacle vivant, avec public en tout cas, jusqu'à la mi-juillet? Ou est-ce qu'on n'aurait pas été un petit peu trop prudent?
Ouais, vous savez, ceux qui reprochent parfois l'excès de prudence auraient été les mêmes qui auraient reproché de ne pas prendre de dispositions suffisantes. En tout cas, ce qu'a dit le Premier ministre, c'est qu'au 2 juin, donc ça veut dire la semaine prochaine, il va annoncer la manière avec laquelle les lieux qui aujourd'hui ont été frappés par une fermeture administrative vont pouvoir rouvrir. Et c'est évidemment toute la question des lieux culturels au-delà des lieux de tourisme ou des restaurants. Je crois qu'on a besoin que la vie culturelle reprenne. La situation, elle peut être très différente entre des lieux privés et des lieux publics, tout simplement parce que quand vous êtes un théâtre privé, vous dire que vous ne pouvez redémarrer qu'avec une jauge restreinte, ça pose des questions économiques. Et là, on peut se poser la question du soutien de l'État, qui pourrait venir abonder. Et puis par contre, on a des lieux publics qui, eux, peuvent peut-être plus facilement rouvrir. On a la question aussi des scolaires qui pourraient par exemple être un public privilégié et se dire que la crise elle pourrait être une opportunité aussi pour aller élargir un certain nombre de publics qui ont peut-être été pendant la crise encore plus éloignés du monde culturel qu'ils ne le sont d'habitude.
Aurore Berger, députée et porte-parole La République En Marche, merci d'avoir été ce matin sur France Musique parmi les musiciens qui ont porté cette voix. Des musiciens indépendants, il y a le quatuor Modigliani, le voici, il joue Mozart. Mozart, le presto de ce divertimento en fa majeur, numéro 138 de Monsieur Köchel, c'était le quatuor Modigliani. C'est la fin de Musique Matin. À la technique, il y avait Jean-Frédéric, Antoine Giraud, Yacine Bouzard à la réalisation, Marion Guillemette, Aïssia Froidure et Margot Muller à la coordination. Demain, notre invité sera un historien de la musique, Mathieu Schneider de l'Université de Strasbourg. Et dans un instant, en piste, Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier qui sont là. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jean-Baptiste, c'est Mozart justement qui va continuer et qui va prendre le relais avec les concertos pour violon. On va découvrir une jeune interprète qui s'appelle Sun Jin Kim.
Là, vous voulez dire que j'aurais pas dû mettre Mozart à la fin de mon émission?
Si, non, mais de toute façon,
c'est une belle continuité.
Vous avez le droit à tout, c'est parce pensé. Que je vous ai tellement entendu soupirer quand vous avez parlé des piscines que...
vous savez que ça me tient à cœur.
Que vous avez le droit à tout.
À demain.
Bon courage, à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.